France Culture. Science Chrono, Antoine Beauchamp.
Au milieu du XXe siècle apparaissait aux États-Unis un mot au parfum aujourd'hui désuet qui fleure bon la science-fiction, la cybernétique. Derrière ce néologisme se cache une idée vertigineuse, celle selon laquelle on pourrait nourrir les machines non plus seulement de carburant, mais bien d'informations. Pour ce faire, encore faut-il édifier une théorie de l'information et une science du fonctionnement de l'esprit, autant dire bouleverser notre rapport à l'idée même de la pensée et de ses mécanismes. Science Chrono remonte aujourd'hui à la source de la cybernétique qui a posé les premiers jalons des réseaux de neurones et des systèmes d'intelligence artificielle. Bonjour Pierre Kasounogas.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, écrivain, professeur à l'Université Paris 8 et membre de l'Institut Universitaire de France. Vous avez publié, entre autres livres, le livre intitulé « Les rêves cybernétiques » de Norbert Wiener, paru aux éditions du Seuil en 2014. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui dans Science Chrono pour nous décrire les itinéraires empruntés par cette cybernétique qu'on pourrait qualifier à la fois de champ d'études et de courant de pensée qui a posé la première pierre de la révolution que nous vivons actuellement avec le développement des systèmes d'intelligence artificielle. Avant de nous plonger dans ces méandres, je vous donne le menu de la seconde partie de l'émission. Tout à l'heure, dans l'entretien archéologique, à l'occasion de l'année scientifique de l'âge du bronze, nous partirons à la découverte de cette période méconnue et nous ferons la visite d'une belle exposition qui se tient en ce moment et jusqu'au 21 septembre 2025 au musée Anne de Beaujeu de Moulins-sur-Allier. Une exposition intitulée « L'Odyssée du bronze à la rencontre des premiers Européens ». Ce sera donc tout à l'heure en deuxième partie. Mais avant cela, retournons à une période plus récente et à cette cybernétique qui va nous occuper dans la demi-heure qui vient. Pierre Kasounogas, avant de lever le capot théorique de cette science et d'en comprendre les concepts clés, il nous faut présenter l'un de ses fondateurs, un personnage assez éminent qui s'appelle Norbert Wiener, auquel vous avez consacré un livre. Qui était-il? Dans quel cadre est-il né?
Alors, Norbert Wiener est né aux États-Unis en 1894 et c'est au départ, et donc il fait des études de mathématiques. Il est très très lié à son père, hein. Il écrira une autobiographie en 2 tomes dans lequel il parle beaucoup de son père. C'est un enfant prodige, hein. Il passe l'équivalent du baccalauréat à 11 ans, il me semble. Il a sa licence à 14 ans, il finit sa thèse à 17 ans. Et il va donc se lancer, c'est un pionnier des mathématiques appliquées. C'est-à-dire, c'est une époque où les mathématiques les plus prisées, ce sont des mathématiques très pures. Et lui, donc, va se lancer dans des mathématiques appliquées. Et son parcours est aussi lié à celui de son université, le MIT, le Massachusetts Institute of Technology, quand il y entre, juste après la Première Guerre mondiale. C'est vraiment une petite école d'ingénieurs qui n'a rien à voir avec les grandes universités qui l'entourent, en particulier Harvard. Et ben, le MIT va se développer avec ses sciences appliquées et Norbert Wiener en est un des moteurs. Et donc, entre les deux guerres, il fait des mathématiques appliquées. Le grand résultat qu'il obtient concerne le mouvement brownien. Donc le mouvement brownien, donc c'est l'exemple que prend Wiener, hein. Vous imaginez quelqu'un complètement ivre au milieu d'un stade de football, hein. Et donc
l'imagine bien, oui.
Il fait un pas dans une direction et il titube, hein, un pas dans une direction, un pas dans une autre. Une question qu'on peut poser, c'est combien de temps va-t-il mettre pour franchir les limites de ce stade de football? Voilà, le mouvement brownien, c'est une particule qui est soumise à des impulsions aléatoires. Qu'est-ce qu'elle devient? Donc, il obtient des résultats très importants, donc vraiment appliqués là-dessus. Et donc, il est un mathématicien appliqué, de première classe, vraiment. Il voyage beaucoup entre deux guerres. Il va dans des pays dans lesquels les Européens ou les Américains vont peu à cette époque, comme en Chine, au Japon, beaucoup en Europe aussi.
Et il a étudié d'ailleurs en Europe, à Cambridge, à Göttingen, qui sont des universités quand même assez capitales en Europe, sous le patronage quand même du philosophe et mathématicien à Cambridge, Bertrand Russell, et sous le patronage de David Hilbert, qui est quand même l'un des plus grands mathématiciens du XXe siècle à Göttingen. Donc il était quand même parrainé par des pointures d'un très très grand niveau.
Voilà, absolument. Il ne s'entend pas très bien avec eux. Mais effectivement, il fait un tour d'Europe des mathématiques. Voilà. Et après la guerre, donc pendant la guerre, on lui dit qu'on lui L'histoire dit qu'on lui propose plus ou moins de faire partie du projet de Los Alamos, de la bombe atomique, mais qu'en fait, il est très bavard et très distrait. Et
il n'arriverait pas à garder le secret.
Et donc, ce serait difficile de lui confier des secrets. Donc, il n'y participe pas. Mais il est très marqué par le fait que l'un des résultats qu'il a obtenu dans le milieu des années 30 est utilisé dans la bombe atomique. Et pour lui, c'est vraiment une rupture dans sa vie, dans sa carrière. Et après donc Hiroshima et Nagasaki en 1945, en août 45, dans un premier temps, il veut arrêter sa carrière scientifique. Il veut se retirer dans sa ferme du New Hampshire pour cultiver des légumes. Et à la réflexion, il va garder son poste au MIT, revenir dans la science, mais avec l'idée qu'il faut prévenir le public des dangers des nouvelles machines. Mmh. Et alors, les nouvelles machines, c'est pas la bombe, parce que la bombe, chacun sait quels sont les dangers de la bombe à partir de ce moment-là. Ce sont les machines à calculer, les nouveaux ordinateurs et ce qu'il appelle des machines à rétroaction. Et là, il entre dans une toute autre période de sa carrière dans laquelle il fait plus vraiment de mathématiques, en fait, ou plus comme avant. Il se lance dans une autre discipline, la cybernétique, qui, donc, dès le début, est liée à l'idée d'une science qui est à la fois hyper puissante et hyper dangereuse.
Et avec tout le lot de mise en garde qu'on va décrire ensemble, Pierre Cassounogas, il n'est pas tout seul, bien sûr, à s'intéresser à cette idée de machine pensante, ce Norbert Wiener. Il faut décrire le cadre aussi dans lequel il s'intègre, le cadre intellectuel aux États-Unis dans ces années 40, dans ces années de Seconde Guerre mondiale, avec ces fameuses conférences de Macy qui voient se rencontrer des chercheurs venus de plein d'horizons différents. On a des anthropologues, des psychiatres, des logiciens, des philosophes, tout un tas de disciplines qui se posent quelles questions concrètement autour de ce rapport entre l'humain et la machine ?
Alors, qui se posent beaucoup de questions et des questions qui parfois obscures et puis parfois arbitraires d'essayer d'unifier dans une seule problématique. Ces conférences, donc, qui commence, alors la première, c'est un symposium de 1943, donc la guerre est pas finie, et puis qui vont aller jusque dans les années 60. Wiener lui-même arrête d'y participer au milieu des années 50 et il meurt en 1964. Cette immédiate après-guerre, donc, est marquée par la bombe. L'idée qu'avec la science, on peut énormément pour le meilleur et pour le pire.
C'est un peu la fin de l'innocence des scientifiques, entre gros guillemets, puisque la science a déjà eu des routes, d'une certaine façon, morales, on va le dire, de cette façon-là. Mais là, c'est vraiment, ça acte le fait qu'il faut se méfier aussi, d'une certaine
exactement.
façon.
Exactement. Et aussi que peut-être tout n'est pas possible, mais beaucoup est possible. Oui. Très vite. Et donc, c'est les conférences Massy concernent vraiment le rapport, vous l'avez dit, entre l'humain, le vivant et la machine, qu'il s'agit, pour le dire très vite, de considérer dans une seule théorie à partir de nouveaux concepts. Et ces nouveaux concepts, il y a l'idée de calcul et de machine à calculer. Donc le calcul, c'est un concept un peu plus ancien, qui est marqué par Turing en 1936-37, mais qui, d'une certaine façon, se matérialise parce que, après la guerre, on voit apparaître les premiers ordinateurs. Donc, des machines à calculer surpuissantes, si on veut. Donc, les ordinateurs, l'idée de calcul, l'idée de rétroaction. Donc, la rétroaction, en anglais, feedback, c'est un concept sur lequel Wiener va beaucoup insister et qui distingue, en fait, qui fait le cœur, quand même, de la cybernétique et qui est...
D'ailleurs, on peut peut-être s'arrêter deux petites secondes, oui. Pierre Cassounogas, excusez-moi de vous interrompre, mais sur ce terme cybernétique, sur son étymologie, sur ce néologisme, qu'est-ce qu'il veut dire de façon très première ?
Oui, alors, la cybernétique, c'est la science du contrôle chez les humains, les machines et les vivants. Donc, le mot d'un mot grec qui veut dire gouvernail, en fait, est tiré d'une petite partie des machines à vapeur qui, justement, leur permet d'avoir une rétroaction. Donc, qu'est-ce que c'est cette rétroaction ? La rétroaction, c'est la capacité à modifier ses gestes au vu, ou ses actions, au vu de leurs résultats. Hein, donc, par exemple, eh bien, typiquement, donc, pour les machines à vapeur, lorsque la machine, le gouvernateur en anglais, c'est une petite boule qui se trouve, qui est liée à la soupape et qui, quand la machine va trop vite, par la force centrifuge, va s'écarter de la machine et soulever la soupape, de sorte que la vapeur va s'échapper et la machine va ralentir.
Ce qui fait que la machine aura une forme d'autonomie et de capacité d'autorégulation.
Voilà, exactement, d'autorégulation. La capacité à se corriger elle-même. Hein, de la même façon, j'essaye d'attraper ma tasse, je pose la main un peu trop à gauche, et ben si j'ai des caméras, je le vois et je peux rapprocher ma main de la tasse. Et puis peut-être que si je suis donc un robot, hein, ou d'ailleurs si j'ai des maladies neurologiques, je peux, en essayant de rapprocher ma main de la tasse, je peux en fait la renverser ou la mettre beaucoup trop de l'autre côté. Hein. Et donc je vais devoir aller du coup cette fois-ci sur la droite, et peut-être que je vais encore m'en écarter plus. Donc la rétroaction peut s'étudier mathématiquement. C'est donc la capacité à corriger ses gestes ou ses actions au vu de leurs résultats. Et elle fait l'effet, elle peut être soumise à une théorie mathématique. Et l'idée de Wiener est que Wiener donc essaye de mettre en place un canon à rétroaction pendant la guerre qui en fait marche pas, mais il en tire ce concept et il a l'idée, avec d'autres collaborateurs, hein, mais il a l'idée que ce concept permet de donner aux machines un comportement téléologique comme les vivants. C'est-à-dire que la machine pourvue de rétroaction, qui corrige donc ses actions, semble avoir un but comme un être vivant. Et c'est pour lui un exemple d'un concept qui donc peut s'appliquer de façon uniforme à des humains, des vivants, des machines. Et ça, c'est le cœur de la cybernétique. L'idée qu'on va pouvoir traiter dans une même théorie, avec les mêmes concepts, ces différentes catégories d'êtres. Et que donc, on ne dit pas...
L'idée n'est pas de mettre sur le même plan humain et machine. Si
voilà, il ne s'agit pas de dire que les humains sont des machines. Mm-hmm. Pas du tout. Et il s'agit de montrer qu'on peut dire beaucoup des humains et des machines avec les mêmes concepts. Hein, finalement, en utilisant les mêmes concepts, on va en apprendre sur les machines comme sur les humains et les vivants. Et le troisième concept, qui est peut-être un peu moins important, c'est celui d'information.
Alors celui d'information, il est bien sûr présent dans l'idée d'informatique. Là, on parle de ses travaux, de Norbert Wiener, qui fait paraître en 1948 le livre fondateur de la cybernétique. Alors en anglais, le titre c'est « Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine », ce qui donne en français « La cybernétique, information et régulation dans le vivant et la machine ». Que contient à peu de choses près ce livre, Pierre Kasounoguès? Quels sont les éléments clés? C'est déjà ces concepts-là de rétroaction et
oui,
d'information,
voilà, ces trois concepts, hein, rétroaction, information, l'idée du calcul aussi. Mais donc il y a une théorie mathématique de l'information. Hein, Wiener met en place une théorie de l'information qui n'est pas exactement celle de Shannon, mais comparable. Ou pour le dire très vite, hein, l'information est liée à la probabilité d'un message, mais inverse. C'est-à-dire que si un message est très probable, si vous savez à l'avance ce que je vais dire, c'est très probable, vous n'avez pas d'information sur ce que je vais dire. Inversement, plus le message est inattendu, plus ça vous dit quelque chose. Donc voilà, l'information est liée négativement à la probabilité d'un message. Bon, Wiener en fait une théorie. Donc, le livre présente ces différentes théories mathématiques, hein, un peu de calcul, mais surtout feedback, rétroaction, donc c'est-à-dire rétroaction et information. Mais ce qui va rendre Wiener immédiatement très célèbre dans l'Amérique des années 50, c'est en fait l'introduction du livre, dans laquelle Wiener veut prévenir le public des dangers de ces machines qui sont en train de naître.
Quel danger identifie-t-il ?
Et alors là, c'est une introduction qui relève de la science-fiction. Hein, Wiener, en fait, est persuadé que ces nouveaux éléments vont permettre de mettre en place ce qu'il appelle des usines automatiques. C'est-à-dire des usines dans lesquelles il n'y aura plus d'êtres humains, ou très très peu pour faire des réparations. Et il est persuadé que ces usines vont voir le jour, dit-il, dans les 15 prochaines années. Hein, donc 1948, ça fait 1963. Et il décrit, en fait, le monde qui sera le nôtre ou le leur si on ne fait rien. Hein, et c'est-à-dire, dans le système capitaliste américain des années 50, s'il y a plus de travail, eh bien, il y aura un chômage de masse. Il y a un problème social et économique. Mais pour Wiener, il y a aussi un problème idéologique. C'est-à-dire, en admettant même qu'on arrive à comme le dit beaucoup plus tard, récemment Bernard Stiegler, si on arrive à distribuer le loisir produit par l'automatisation, il reste aussi idéologiquement à accepter de ne pas travailler. C'est pas si facile. Je pense que là, Wiener a tout à fait raison. Donc Wiener décrit un monde de science-fiction dans lequel il n'y a plus de travail et les gens sont désœuvrés. Et son idée, c'est que on a, avec l'automatisation, avec ces trois concepts et les machines qui les matérialisent, un danger comparable à celui de la bombe atomique. Et pour Wiener, les savants n'ont pas su empêcher la bombe atomique ou son usage. Et ça, Wiener est très clair que pour lui, c'est une erreur,
une tâche, un crime,
d'avoir utilisé la bombe atomique. Les savants n'ont pas pu l'en empêcher, mais voilà, ils doivent faire que l'automatisation viennent du bon côté. Et alors, voilà, c'est là où les formulations de Wiener, bon, il y a aussi toute une série par la suite d'autres éléments, mais c'est là où les formulations de Wiener sont assez ambiguës, parce que d'un côté, c'est vrai que l'automatisation a progressé, et elle progresse en ce moment, particulièrement avec les IA, et en même temps, le monde que décrit Wiener, c'est un monde de science-fiction, c'est-à-dire aujourd'hui et a fortiori en 1963, il n'est pas vrai que l'automatisation soit complète, que plus personne ne travaille, c'est pas vrai.
Mais c'est vrai que Pierre Kasounogas, Wiener, il a quand même toujours ce côté un peu prophétique. En 1950, paraît un livre qui s'appelle Cybernétique et Société, qui est un peu la version expurgée de ce premier ouvrage de 48 que je mentionnais tout à l'heure. Et dans ce livre, il dit la chose suivante en introduction, il dit « La thèse de ce livre est que la société ne peut être comprise que par une étude des messages et des dispositifs de communication qu'elle contient. Et que dans le développement futur de ces messages et de ces dispositifs, les messages entre l'homme et les machines, entre les machines et l'homme et entre la machine et la machine sont appelés à jouer un rôle sans cesse croissant. » Là, on y est. Et c'est surtout très intéressant qu'ils pensent déjà aussi à ces messages échangés entre les machines elles-mêmes.
Oui, c'est un passage justement très intéressant qui n'est pas directement lié à l'automatisation, mais bon, qui illustre cette idée d'une théorie dans laquelle machines, humains et animaux sont sur le même plan. Et dans ce passage, en fait, c'est un aspect vraiment où, du coup, Wiener anticipe vraiment le monde d'aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que fait Wiener ici? Il pense à quelque chose comme les réseaux sociaux. C'est-à-dire, à l'époque de Wiener, en fait, la communication, elle est essentiellement polaire. C'est-à-dire, il y a un pôle émetteur, par exemple la télévision, qui distribue à une multitude de récepteurs. Et ce que Wiener anticipe, c'est justement une société dans laquelle la communication se fait surtout entre des éléments sur le même plan, qui peuvent être humains, qui peuvent être des machines, comme on a typiquement sur un réseau social, on a à la fois des humains, mais aussi ce qu'on appelle des bots qui envoient des messages. Et Wiener comprend très bien, et vraiment en anticipant là le monde d'aujourd'hui, comprend très bien que le passage à une telle communication modifie en fait le type de message qu'on peut entendre. Et en fait, il dit que dans ce même livre, Cybernétique et Société, qui en fait en anglais s'appelle L'usage humain des êtres humains, The Human Use of Human Being. Voilà, les messages qui vont pouvoir circuler dans un tel réseau non polaire, eh bien, ça va être ce qu'il appelle des clichés. Et alors, voilà, on appellerait ça des mèmes aujourd'hui. En quoi ça consiste? En fait, c'est difficile à savoir, mais il y a certains messages qui passent mieux que d'autres.
Alors, on en revient à cette idée, à cette genèse de la cybernétique. Pierre Kasounogas, on l'a compris, c'est un courant de pensée assez complexe qui va mobiliser des concepts multiples dans d'autres disciplines. On n'a pas parlé de l'entropie, de l'homéostasie, qui sont des concepts de la physique et de la biologie, qui pensent l'équilibre et le désordre, et qui vont essayer justement d'empêcher cette nature, cette tendance naturelle qu'ont les humains, les espèces vivantes, mais aussi les machines à tendre vers plus de désordre. On parle de machine, mais alors du coup, c'est quoi la machine type de la cybernétique, Pierre Kasounougas?
Alors ça dépend comment on l'entend, et c'est effectivement aussi l'ambiguïté de la cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique, c'est une théorie. Et une théorie qui se situe entre la science et la science-fiction et la philosophie. Mais la cybernétique ne produit pas vraiment de nouvelles machines. Elle produit des idées, des images.
Ça ne sort pas du bureau, finalement. Ça ne sort pas du laboratoire.
Et les machines sur lesquelles Wiener travaille sont ou bien des machines de spectacle, en fait, ou bien des échecs. Par exemple, il est très fier dans son livre, il parle beaucoup d'un gant qui permettrait, enfin un gant, c'est un gant gros comme une valise, mais qui permettrait à quelqu'un qui est sourd de percevoir sous forme de picotement les modulations de la parole. Et en fait, ça marche pas. Parce que la parole humaine, dans un même ordre de fréquence, on a énormément de variations qu'en fait, on n'arrive pas à rendre assez précisément sous forme de picotement sur les doigts. Donc, ça marche pas. Une machine qui va être un peu le symbole de la cybernétique, ce sont les tortues qu'invente un savant anglais, Walter Gray Walter, qui sont des petites machines sur roulettes très très simples qui sont en fait attirées par la lumière. Il y a simplement une cellule photoélectrique et la tortue avance dans la direction de la lumière. Et alors si on les complique un peu, si par exemple on les rend sensibles à la lumière, mais on met sur chacune une petite lumière. Elles vont avoir, semble-t-il, des comportements sociaux, etc. Ou Wiener, il y a une pièce de théâtre, une représentation théâtrale à Boston, aux États-Unis, et Wiener fait l'introduction en arrivant sur scène et il guide avec sa lampe de poche une de ces machines.
De cette tortue de Bristol.
Voilà. Donc ce sont des machines de spectacle, mais qui n'ont pas d'intérêt technique.
Alors, puisqu'on parle de ces machines hypothétiques aussi, de la cybernétique, je vous propose qu'on écoute notre archive sonore du jour. En 1957, le mathématicien François Le Lyonnais pensait au futur de ces machines directement inspirées de la cybernétique. Des machines, capables d'écrire automatiquement des textes littéraires. C'était dans l'émission La Tribune du Progrès, intitulée Les extraordinaires réalisations de la cybernétique. C'était diffusé le 28 mars 1957 sur la RDF.
Nous aurons certainement des machines à lire à haute voix des textes écrits, et réciproquement. Mais le problème est différent, cependant. Des machines à écrire des textes dictés. On possède déjà tous les éléments qui permettront de construire des machines que l'on appelle Markoviennes, du nom du mathématicien russe qui, il y a plus de 40 ans, avait fait une étude mathématique du poème de Pouchkine, Eugène Onieguin. Ces machines seraient capables, ne sursautez pas, d'écrire automatiquement des romans ou des textes littéraires.
Mais quelle serait la valeur de ces textes ?
Très grande d'un certain point de vue, complètement nulle d'un autre. Ce seraient des textes parfaitement intelligibles et qui plairaient beaucoup au grand public, mais des textes complètement dépourvus d'originalité. C'est justement ce qui fait leur valeur pour le critique littéraire et pour l'esthéticien qui pourrait étudier scientifiquement le mécanisme de la banalité et du lieu commun.
Mais comment de telles machines peuvent-elles fonctionner ?
En gros, le fonctionnement de ces machines serait basé sur la statistique. On leur donnerait un certain nombre de textes à lire, avec des cellules photoélectriques. J'entends par là qu'elles dresseraient un fichier en attribuant à chaque mot différent du texte une fiche. Ensuite, elles noteraient quels sont les mots suivants qui reviennent le plus fréquemment. Et sans entrer dans d'autres détails qui nous prendraient trop de temps, vous pouvez peut-être imaginer que donnant ensuite un mot à ces machines, elles pourraient sortir la fiche de ce mot, l'écrire, déterminer ensuite le mot suivant qui viendrait tout naturellement, puisqu'il a l'habitude d'être celui qui vient le plus fréquemment dans les textes qui lui ont été soumis.
Voilà, Pierre Kasounogas, la voix de François Le Lyonnais. Il avait vu pas mal de choses et puis il s'était trompé aussi sur d'autres éléments.
Oui, alors c'est une archive étonnante et étonnante parce que donc Le Lyonnais, qui est un mathématicien, mais très lié à des groupes littéraires comme Loulipo, très lié à Queneau, voilà, imagine donc cette machine qui procéderait statistiquement pour produire du banal. Et voilà, c'est exactement ce que font les IA génératives aujourd'hui. Alors, elles procèdent pas, c'est pas exactement des chaînes de Markov. Leurs éléments statistiques, ce sont pas exactement des mots, ce sont des parties de mots qu'on appelle des tokens. Mais l'idée est la même, c'est-à-dire, ce sont des machines. On parle parfois pour nos IA génératives de perroquets stochastiques. Ce sont des machines qui font les chaînes linguistiques les plus vraisemblables et qui donc font du banal. Et c'est une anticipation tout à fait extraordinaire de Le Lyonnais. Extraordinaire aussi parce que il comprend donc très bien le principe technique et en même temps, à mon sens, il y voit une sorte dans ces machines à écrire ou à parler. À faire du banal, il y voit une sorte de curiosité littéraire, en fait, qu'on va pouvoir étudier, et il se rend pas compte de la place qu'elles sont susceptibles de prendre dans nos vies. Une grande partie de nos paroles, de nos écrits, sont de ce langage banal, et que donc la machine est parfaitement capable d'imiter. Et voilà, et ce qui nous met aujourd'hui vraiment devant un problème, je pense, très important pour pour le langage et notre rapport à l'écrit en particulier. Donc c'est vraiment une archive qui est à la fois pleine d'anticipation et avec ce côté un peu ironique, qui ne prend pas la mesure du danger que représente cette machine.
Alors, Pierre Kasounogas, on l'a pas dit, mais quand même, la cybernétique, c'était un vrai courant qui a eu une envergure quand même très importante dans ces années 50-60. Enfin, à partir des années 60, ça tombe en désuétude. Alors, qu'est-ce qui va faire que la cybernétique va sortir un peu des radars à partir de ce milieu des années 60, à partir en gros de la mort de Norbert Wiener?
Oui, alors on disait tout à l'heure que la cybernétique n'avait pas produit de machine et qu'elle produisait des idées. Mais l'une des idées très très importantes qu'elle a produites, c'est celle de réseaux neuronaux. Pas avec Wiener, c'est son deux collègues.
On avait consacré une émission entière justement.
Maculot et Pitts, mais vraiment dans l'optique de la cybernétique. Et ce sont ces réseaux qui sont utilisés aujourd'hui. Mais en 1951, il y a en fait un groupe de dissidents qui se forment. Essentiellement, ce sont en fait des élèves des pères de la cybernétique, mais qui vont fonder l'intelligence artificielle. Et ce mouvement de l'intelligence artificielle, en fait, c'est ce mouvement qui va prendre le dessus. Et
qui va connaître ensuite, bien sûr, des rebonds avec le développement des technologies et, bien sûr, le développement des capacités de calcul des ordinateurs à partir des années 80. Merci beaucoup, en tout cas, à vous, Pierre Kasounogas, d'être venu nous raconter ce premier moment de la cybernétique. On peut prolonger cette histoire en vous lisant. Les rêves cybernétiques de Norbert Wiener, c'est paru au Seuil en 2014. Et on peut lire aussi Les images pyromanes, coécrit avec Gwenola Wagon. C'est paru chez UV Éditions. Dans Sciences Chrono sur France Culture pour tourner la première page de cette émission entre humains et machines. Après avoir parlé des prémices de l'âge du silicium, on va remonter dans le temps à présent et partir à la rencontre de l'âge du bronze.
Science Chrono, l'entretien archéologique. Antoine Beauchamp.
L'âge du fer et ses Gaulois habitent notre imaginaire collectif et le peuple de nombreuses images, mais que sait-on de l'âge du bronze qui le précède directement? Et comment expliquer qu'il soit aussi peu évocateur ou source de représentation? Une exposition qui se tient jusqu'au 21 septembre 2025 au musée Anne de Beaujeu de Moulins-sur-Allier veut répondre à ces questions et sortir de l'ombre cet âge du bronze. Comment ce tout premier alliage métallique artificiel fabriqué par les humains a-t-il transformé les échanges en Europe? Quelle culture matérielle et symbolique s'est développée à partir de ce matériau rutilant, et à quoi pouvait bien ressembler le quotidien des habitants de cette période? On part tout de suite à la découverte de l'âge du bronze et on va visiter cette exposition intitulée « L'Odyssée du bronze à la rencontre des premiers Européens ». Emmanuel Audry Brunet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable des collections archéologiques du musée Anne de Beaujeu de Moulins et vous êtes co-commissaire de l'exposition L'Odyssée du bronze à la rencontre des premiers Européens qui se tient au musée Anne de Beaujeu jusqu'au 21 septembre 2025. Pierre-Yves Milsan, bonjour.
Bonjour Antoine Beauchamp.
Vous êtes professeur à l'Université de Toulouse au sein de l'UMR Trace et vous êtes également co-commissaire de l'exposition L'Odyssée du bronze. Merci beaucoup à tous les deux de me recevoir, de nous recevoir aujourd'hui au musée Anne de Beaujeu et de nous faire découvrir cette exposition sur l'âge du bronze. Ma toute première question sera pour vous, Emmanuel Audry Brunet. Quel est le point de départ de cette exposition? Quelle en est la genèse?
Alors, il y a plusieurs points concordants, en fait, qui ont fait que cette exposition a lieu cette année en 2025. Tout d'abord, les collections du musée Anne de Beaujeu, avec plusieurs sites de cette période de l'âge du bronze qui sont connus depuis longtemps et dont nous avons des objets présentés dans le musée depuis le 19e siècle. Ensuite, une découverte absolument importante et récente. En 2017, un nouveau site de la période de l'âge du bronze est découvert dans l'Allier, le site de Janza, qui va permettre vraiment une redécouverte de cette période. Et le dernier point, eh bien, c'est l'année scientifique de l'âge du bronze, qui est mise en avant notamment par l'INRAP cette année 2025, qui nous a dit que c'était vraiment le bon moment pour faire cette exposition sur l'âge du bronze.
Alors, l'âge du bronze, c'est pas une période qui est forcément très connue du grand public, et on y reviendra bien sûr un peu plus en détail sur les raisons de cette méconnaissance. On est dans l'entrée de l'exposition et vous avez eu le tact de rappeler un petit peu la chronologie de cette période-là. Pouvez-vous nous rappeler justement la période que recouvre cette période-là?
Oui, effectivement, on part sur cette période avec un handicap hein, quand on parle d'une exposition sur l'âge du bronze, parce que c'est une période qui n'est pas connue du grand public, en fait. Elle n'est pas apprise à l'école, déjà, donc on a vraiment une méconnaissance. On connaît la chronologie jusqu'au néolithique, on l'apprend à l'école, et puis en général, il y a un saut qui est fait jusqu'à l'âge du fer, jusqu'à l'époque des Gaulois, et cette période intermédiaire de l'âge du bronze, qui est pourtant longue, elle est un petit peu passée sous silence. Donc on a ce handicap de départ, mais c'est vrai que l'âge du bronze, c'est une période qui est longue puisqu'elle va de 2500 avant notre ère jusqu'à 800 avant notre ère. Donc une longue période de la chronologie, mais qui est quasiment passée sous silence.
Pierre-Yves Milsan, quand on dit âge du bronze, on entend bien sûr bronze. C'est quoi le bronze?
Alors le bronze, c'est un alliage de deux métaux, l'étain et le cuivre, dans des proportions de 9 parts de cuivre pour une part d'étain. Et c'est un alliage qui représente quand même un certain nombre d'avantages, de qualités, par rapport à ceux qui étaient connus à la fin du néolithique ou durant la période qu'on appelle le calcolithique, l'âge du cuivre. Le bronze par rapport au cuivre, c'est un alliage en fait qui est plus dur, plus résistant et qui a en plus une couleur qui évoque celle de l'or.
L'or, on l'a oublié, puisque maintenant c'est vrai que le bronze, il est, quand il vieillit, il prend une teinte un peu grise, un peu verte. Si on avance un petit peu dans ces couloirs d'exposition, vous avez aussi rappelé, Emmanuel Audry Brunet, l'importance qu'ont les échanges quand on veut fabriquer du bronze, puisque c'est un métal, comme le disait à l'instant Pierre-Yves Milsan, qui est un alliage, et on ne trouve généralement pas toutes les ressources en cuivre ou en étain au même endroit. Alors là, on est devant une carte qui représente quoi?
Alors c'est une carte de l'Europe, puisque le sous-titre de l'exposition, c'est « À la rencontre des premiers Européens ». C'est vraiment une notion qu'on retrouve au fil de l'exposition, mais dans cette période particulièrement. Effectivement, le bronze, comme le disait Pierre-Yves, c'est un alliage, mais au-delà de ça, c'est vraiment la première innovation, invention humaine d'un alliage. On sait travailler auparavant les métaux, mais les métaux natifs, on va trouver de l'or, on va travailler l'or, on va trouver du cuivre, on va travailler le cuivre, mais là, on va avoir l'idée d'associer deux métaux différents pour en créer un troisième. La difficulté, c'est qu'effectivement, pour ces deux métaux dont on va avoir besoin, eh bien, les minerais ne se trouvent pas au même endroit sur le territoire, ou alors très rarement, et ça va demander la mise en place de réseaux commerciaux, de réseaux d'échanges à très grande échelle, et on retrouve donc déjà dès ce moment-là cette notion de commerce européen, finalement, dès l'âge du bronze.
Ces réseaux d'échanges, est-ce qu'ils se traduisent matériellement par des objets qu'on a retrouvés, par exemple, dans la région, qui viennent de loin, de très loin parfois ?
Alors effectivement, on a des choses qui circulent en très grande quantité et parfois sur de très longues distances. Pour les découvertes qui ont été faites ici régionalement, eh bien on a l'exemple notamment de perles en ambre. Et cet ambre, les analyses nous montrent qu'il vient de la Baltique, donc de l'Europe du Nord. On a l'exemple aussi d'un moule de hache qui a été trouvé sur le site de Janza, qui servait à fabriquer des haches, mais vraiment caractéristiques du sud de l'Angleterre. Et puis on a également, par exemple, des perles en verre qui viennent de la région de Venise, hein, puisqu'on produisait déjà du verre à cette époque dans cette région. Et puis une découverte qui est tout à fait exceptionnelle, c'est un gobelet en bronze qui est soit importé du monde phénicien, de Chypre, du Liban, Syrie actuel, soit qui est inspiré en tout cas des productions de vases du Proche-Orient.
Alors là, on parle d'objets qui nous semblent tout d'un coup familiers. L'âge du bronze sort un petit peu d'une forme de brume. On va avancer dans cette exposition puisque je crois que la deuxième salle de cette exposition, justement, vise à accroître cette familiarité avec l'âge du bronze. Emmanuel Audry Brunet, là, on arrive dans cette deuxième partie de l'exposition qui s'intitule « La vie quotidienne ». Et là, on va ensemble découvrir des objets qui sont, pour le coup, familiers, mais aussi assez impressionnants et qui, parfois, ont été mal attribués, qui ont été attribués à une période plus tardive, l'âge du fer, la période des Gaulois. Alors là, on est devant une vitrine assez impressionnante.
Alors effectivement, on est rentré dans une reconstitution de maison de l'âge du bronze, dans laquelle on présente la vie un peu quotidienne pour essayer de personnifier un petit peu ces personnes qu'on a du mal à imaginer. Et on a particulièrement deux prêts qui nous ont été accordés par les musées de Rouen et par le musée de l'armée à Paris, qui sont en fait un casque et une cuirasse en tôle de bronze très finement travaillée, avec un décor repoussé de bossettes et de cercles concentriques. Et ces deux objets ont une histoire un petit peu similaire, puisque tous les deux, au moment de leur découverte au XIXe siècle, en fait, ont été mal attribués par les érudits de l'époque, puisque l'âge du bronze, c'est vraiment une période connue récemment, en fait, dans l'histoire de la science. Et quand on trouve ces objets, qui sont très beaux, très finis, très finement travaillés, on se dit, c'est forcément les Gaulois qui l'ont créé, ça appartient à l'âge du fer. Sauf que l'âge du fer, c'est la période suivante. Et donc, ces objets, ils vont servir pour illustrer l'époque gauloise, et le casque, notamment, qui a une forme un petit peu pointue sur le dessus, va servir de modèle pour le personnage d'Astérix, donc qu'on connaît encore bien aujourd'hui. Et de même, cette cuirasse très travaillé, va servir de modèle, par exemple, pour nous c'est juste à côté, pour la statue Place de Jaude de Vercingétorix. Donc Vercingétorix et Astérix ont des tenues complètement anachroniques de l'âge du bronze et pas de l'âge du fer.
Là on parle d'objets donc du quotidien, d'objets fonctionnels, il y a aussi des objets plus d'apparat, des bijoux, des pendeloques, des parures, peut-être qu'on peut en décrire quelques-unes, et puis aussi le choix muséographique que vous avez fait de donner un visage et une chair à ces personnes de l'âge du bronze.
Oui, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on se représente bien les hommes du paléolithique, on peut se représenter aussi les Gaulois, même si c'est Astérix qu'on a en tête, mais ces personnes de l'âge du bronze, on n'a pas d'image mentale qui nous arrive tout de suite. Donc ça a été un choix avec le graphiste de l'exposition de pouvoir tracer un visage pour ces personnes, même si c'est un visage très schématique. Et effectivement, nous avons représenté dans une vitrine les différents types de parures qu'on peut retrouver pour cette période. Alors les parures en bronze, mais bien sûr on peut en avoir dans d'autres matériaux. On va retrouver énormément de bracelets de différentes formes. On va retrouver, alors pas encore les fibules que peut-être certains auditeurs connaissent, qui sont l'ancêtre des épingles à nourrice, mais qui n'existent pas encore à l'époque. À l'âge du bronze, on va avoir des espèces de grandes épingles qui vont servir toutes droites, un peu comme presque des aiguilles à tricoter qui vont servir à fixer les vêtements entre eux.
Alors, je vous propose qu'on poursuive dans cette exposition. Alors là, on passe à côté de vitrines où il y a d'autres objets fonctionnels, des haches notamment. On arrive dans une nouvelle salle, bien sûr directement liée à l'Allier et au site de l'Allier. Peut-être qu'on peut, dans un premier temps, présenter les principaux sites de l'Allier liés à l'âge du bronze. Et après, bien sûr, avec vous, Pierre-Yves Milsan, on se concentrera sur Jean Zat.
Alors, jusqu'au début du XXe siècle, on connaissait quatre sites principaux dans l'Allier où des dépôts d'objets métalliques ont été découverts plutôt anciennement, courant du XIXe siècle et pour le plus récent, en 1911. Donc ce sont trois toutes petites communes de l'Allier, La Ferté-Autrive, Charroux, Jaligny-sur-Bèbre et Rongères, donc vraiment des petites communes, mais qui ont livré des dépôts avec des objets assez exceptionnels. Une ceinture, on en parlait tout à l'heure, on en a également trouvé une à La Ferté-Autrive. Des dépôts d'objets dorés, notamment à Rongères, avec une coupe où on retrouve le même type de décors que sur l'armure d'ailleurs tout à l'heure, avec des décors de cercles concentriques, un très beau bracelet qu'on pourrait tout à fait imaginer au poignet d'une femme aujourd'hui en 2025. Donc voilà, des objets assez exceptionnels et emblématiques, mais malheureusement retrouvés complètement hors contexte. Et le cinquième site emblématique de l'Allier, il est tout nouveau, puisqu'il est connu depuis 2017, c'est Jean Zat, qui a donc été mis au jour dans le sud du département.
Racontons cette histoire de Jean Zat, parce que Pierre-Yves Milsan, c'est quand même un des sites que vous connaissez comme votre poche, sur lequel vous travaillez, vous y étiez encore tout récemment. Alors décrivez-moi peut-être d'abord l'histoire et la chronologie de la connaissance de ce site.
Alors c'est un site qui est connu en réalité depuis le XVIIIe siècle, puisqu'on y a découvert dès 1720 un dépôt métallique et puis différentes découvertes par la suite jusqu'au XIXe siècle. Mais le paradoxe, c'est qu'on n'indiquait jamais l'endroit précis où ces dépôts métalliques avaient été mis au jour. Et donc je savais qu'il y avait certainement un site majeur à découvrir sur cette commune, mais sans savoir où exactement, jusqu'en 2017, où malheureusement le site a été découvert par des pilleurs équipés de détecteurs de métaux. Heureusement, le service régional de l'archéologie a pu intervenir, les objets ont été saisis, et grâce à une enquête, eh bien, on a pu localiser l'endroit de la découverte. Et à partir de 2019, on a monté un gros programme de recherche sur le site et son environnement afin de comprendre, de contextualiser ces trouvailles exceptionnelles.
On peut faire un petit pas de côté, mais c'est vrai qu'il faut rappeler que quand on est archéologue de l'âge du bronze, on rivalise avec des pilleurs qui utilisent les mêmes outils que vous, des détecteurs de métaux, et ça c'est un des inconvénients, on va dire, de la recherche et des fouilles pour l'âge du bronze.
Ça c'est effectivement un très gros problème. On sous-estime aujourd'hui l'importance du pillage réalisé aux détecteurs de métaux. Alors, bien entendu, les archéologues, eux aussi, utilisent ces détecteurs, mais de façon évidemment à repérer des objets qui vont pouvoir être ensuite étudiés, replacés une fois de plus dans leur contexte et ensuite in fine confiés à des collections publiques comme c'est le cas pour les objets de Jean Zat.
J'aimerais qu'on décrive justement ces objets parce que je crois que c'est la première fois qu'il y a autant d'objets de ce site qui sont exposés au public. Alors c'est ici le cas au musée Anne de Beaujeu de Moulins. On se trouve là devant une vitrine avec des objets qui ont des formes assez mystérieuses. Et qu'est-ce qu'on a devant nous ?
Alors, on a devant nous justement l'un des dépôts qui a été trouvé il y a 2 ans maintenant, qui était placé dans une petite fosse. Et on aperçoit tout d'abord ce qu'on appelle un torque, c'est-à-dire un collier en bronze décoré de torsades. Et puis, dans ce torque, toute une série de parures, des bracelets, des pendeloques. Et puis, un petit peu plus haut, eh bien, une pointe de lance et une lame de hache. Bref, des objets qui devaient orner probablement un personnage, alors peut-être un enfant, parce que ce sont des parures de très petite taille. Et puis, on a donc ces pièces d'armes et cette lame de hache qu'on associerait plutôt à un adulte. Donc voilà, c'est un des dépôts intacts que nous avons pu mettre au jour parmi les 18 dépôts connus maintenant sur ce site depuis 2017.
Vous parlez de dépôts, alors ça signifie qu'il y a une intentionnalité dans le fait de réunir ces objets qui n'ont a priori pas grand-chose à voir ensemble. Ça signifie qu'ils sont dans un contexte funéraire ou bien totalement hors d'une tombe. Et quelles questions ça pose ?
Alors moi, je me souviens que quand j'étais étudiant, on nous disait très souvent que les dépôts métalliques de l'âge du bronze, qui sont vraiment emblématiques de la période, étaient toujours isolés, c'est-à-dire à l'écart des habitats, à l'écart des nécropoles. Bon, simplement, j'avais déjà observé qu'il n'y avait jamais eu véritablement d'enquête archéologique très précise. Et donc, l'idée de notre programme, c'était justement d'en savoir plus sur l'environnement de ces dépôts. Très vite, on s'est rendu compte qu'on était justement sur un très grand site archéologique. En réalité, un site d'habitat fortifié. Et donc, ces dépôts ne sont qu'une partie émergée, en quelque sorte, d'un iceberg qu'on essaie de mieux comprendre grâce à des campagnes de prospection et de fouilles archéologiques.
Cette quantité de dépôts qu'on a retrouvés à Janza, qu'est-ce que ça nous dit justement de cet endroit qui aujourd'hui est un petit village? Comment on peut se le représenter, Janza, à l'âge du bronze?
Alors ça signifie déjà qu'on a affaire à des gens qui sont suffisamment riches, suffisamment puissants pour pouvoir se permettre, alors non pas de gaspiller, mais de se défaire d'objets qui représentaient une très grande valeur. On a vu que le bronze nécessite l'importation, nécessite aussi des techniques très avancées, et donc il ne peut qu'y avoir des personnages très importants, riches, pour pouvoir gérer en quelque sorte la production et puis aussi acquérir en tout cas une quantité plus ou moins importante de ces objets. Et donc les laisser dans le sol alors même que le bronze peut être facilement recyclé, ça signifie qu'on se départit d'une richesse très importante. Ça fait l'objet de plein de débats depuis le 19e siècle. Pourquoi est-ce que ces sociétés ont éprouvé le besoin comme ça d'enterrer des richesses dans le sol? Et il me semble que le site de Janza permet justement d'avancer quelques éléments de réponse, parce que pour la première fois, on est en mesure d'identifier des dépôts, de les fouiller dans des laboratoires et de restituer les gestes, l'organisation de ces ensembles.
Alors, quel geste, quelle organisation préside à ces dépôts?
Alors, d'une manière générale, ce qu'on observe, c'est que ce sont des ensembles qui sont constitués avec beaucoup de soin, c'est très organisé. On a un choix aussi qui peut être récurrent de certains objets. Par exemple, on a observé que les bracelets sont souvent placés au fond de la fosse. Donc, ce sont les premiers objets déposés, tandis que les lames de hache, elles, vont se trouver plutôt au sommet. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils sont toujours associés à d'autres aménagements, notamment à des bâtiments, des fosses. Et puis, ils sont associés également à des éléments structurants de cet habitat de hauteur, puisque la plupart ont été mis au jour de part et d'autre d'une limite qui semble diviser en deux ce grand habitat de l'âge du bronze.
Est-ce qu'on peut décrire d'autres objets dans cette salle et d'autres objets qui ont été trouvés notamment à Janza? Je ne sais pas, Emmanuel Audrey Brunet, s'il y a parmi ces objets quelques-uns qui vous parlent ou qui vous semblent importants de décrire, de mentionner?
Alors il y a les perles en ambre qui ont cette couleur un petit peu marron qui viennent de la Baltique et les perles en pâte de verre qui elles ont une couleur bleutée qui viennent de la région de Murano déjà. Et c'est vrai qu'on retrouve vraiment cette idée de Janza et de l'Allier qui se retrouve au cœur d'un nœud commercial géographique. Après on peut observer de nombreux bracelets avec des types différents, plus ou moins épais, plus ou moins décorés. On remarque que tous les bracelets ont malgré tout une légère décoration de fines incisions sur les pourtours qui sont plus ou moins évoluées, détaillées, mais vraiment un soin qui est donné à l'ensemble de ces pièces. Et puis on a des objets qui interpellent beaucoup nos visiteurs qu'on appelle des tintinabulums. Alors c'est un mot un petit peu barbare, mais pour mentionner des pièces qui tintaient, qui avaient un son. Donc ce sont des grands anneaux plats avec des systèmes de suspension qui permettent d'accrocher divers anneaux entre eux, mais dont l'usage est encore vraiment soumis à question aujourd'hui pour lesquels on a plusieurs interprétations. Si Pierre-Yves, vous pouvez...
Pierre-Yves Milsan.
Effectivement, pendant longtemps, ces objets ont été considérés comme des ornements équestres, alors qu'on a de bonnes chances de penser aujourd'hui, en tout cas c'est ma position, qu'il s'agit plutôt d'objets cérémoniels, d'objets de parure. Voilà. Est-ce que c'était des femmes, des hommes, ou bien les deux genres qui portaient ces tintinabulums, on ne sait pas. Mais voilà, c'est plutôt du registre du costume.
Vous parlez de l'aspect cérémoniel, et moi je ne peux pas m'empêcher, quand je vois ce genre d'objets, de penser à leur signification, et notamment à la signification de ce genre de dépôt. Je me dis, voilà, est-ce qu'il y avait une symbolique derrière tout ça? Est-ce qu'on a accès de plus en plus, grâce à ces découvertes, notamment à Janza, à cette dimension plus d'ordre spirituel des sociétés de l'âge de bronze?
Effectivement, on a de bonnes chances de penser aujourd'hui que la grande majorité de ces dépôts ont été constitués à l'occasion de cérémonies, peut-être cérémonies soit d'inauguration, soit de fermeture du site de Janza. on a des indices de ce que ces dépôts ont été placés de manière synchrone sur un très court laps de temps et probablement à la fin de l'occupation du site. Et une fois de plus, enfouir ces richesses, ça suppose probablement un acte spirituel, c'est-à-dire que on interprète aujourd'hui ces ensembles comme des offrandes faites à des divinités, soit pour les remercier en ex voto, soit pour appeler en quelque sorte leur bienfaisance.
Deux choses. Donc, vous parlez de la fermeture du site et d'un court laps de temps. Est-ce que vous pouvez nous situer ça dans le temps, grossièrement ?
Oui, alors effectivement, on est aux alentours de 800 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire probablement quelques années ou à peine quelques décennies avant la fin de l'âge du bronze et avant le début de l'âge du fer.
Et après, vous évoquez l'offrande. Alors, à quel dieu ?
Ah, alors ça, c'est une grande question. On peut penser qu'à l'âge du bronze, on a déjà affaire à des sociétés qui sont polythéistes parce que ces sociétés sont très vraisemblablement déjà celtiques. Et on connaît les croyances du monde celtique pour la fin de l'âge du fer, mais on commence aujourd'hui à avoir des indices de ce que, au bronze final, on a déjà des représentations de divinités du panthéon celtique. Néanmoins, il est très clair que pour les personnages les plus importants de la société, il y a une divinité qui joue un rôle majeur, c'est le soleil, le dieu soleil.
Alors le dieu soleil, je crois, si je ne dis pas de bêtises, qui fait un peu l'objet de la dernière salle. On va se diriger tranquillement vers le dernier espace de cette exposition, l'Odyssée du bronze au musée Anne de Beaujeu de Moulins. Là, c'est une salle qui rayonne. Là, on passe de l'obscurité aux paillettes. C'est limite une expo disco. Alors, je sais.
Oui, c'est absolument comme ça qu'on l'a imaginé. C'est la réaction des visiteurs, effectivement. On a des paillettes au mur, on a les yeux qui brillent. Et ça reflète bien ce... Alors déjà, cette couleur du bronze, hein, parce qu'on le disait tout à l'heure, nous, aujourd'hui, on a une vision complètement faussée de cette couleur bronze qui s'est oxydée et qui a une couleur un peu vert de gris, alors qu'elle était vraiment dorée comme de l'or, certainement avec des nuances parfois un peu rouges ou un peu noires selon les recettes particulière des bronziers, mais ça c'est vraiment quelque chose qui fausse notre vision. Il faut vraiment les voir comme des objets vraiment scintillants, très brillants. Donc c'est ce qu'on a voulu refléter avec nos paillettes. Et puis cette dernière salle, on l'a appelée le voyage céleste, puisqu'on parle tout particulièrement de ces notions de cérémonie et de culte qui pouvaient déjà exister, même si on n'a pas encore toutes les réponses. On voit qu'il y a des thématiques qui apparaissent au niveau européen également, hein, on l'a vu pour les échanges, mais on le voit aussi au niveau de certains motifs qui sont récurrents, qu'on va retrouver du Danemark à l'Italie et de la France à la Roumanie, avec un motif particulier qu'on appelle le motif de la barque solaire.
Cette barque solaire, elle semble représenter sur l'un de ces objets qui est dans une vitrine à côté de nous, qui est un objet ultra emblématique en archéologie pour la période de l'âge du bronze, c'est le disque de Nebra. Alors, c'est pas le disque de Nebra officiel qui ne sort pas des frontières de son pays, mais on peut présenter quand même cette reproduction et son importance.
Oui, effectivement, le disque de Nebra. Donc Nebra, c'est une petite commune dans l'est de l'Allemagne. C'est un trésor national qui sort très très peu du pays, mais pour lequel le musée local a fait une reproduction à l'identique. Nebra a un peu la même histoire que Janza, puisque c'est le fruit d'un pillage au départ qui a mis au jour un dépôt avec différents objets, disons classiques de l'âge du bronze, mais au milieu de ces épées et de ces pointe de lance se trouve un disque plat en bronze aujourd'hui oxydé, donc vert, sur lequel sont placées des représentations dorées. Pour le coup, elles ont gardé leur éclat. On peut observer, si on le décrit, quasiment au centre, un disque solaire, un disque plein. Un petit peu sur la droite, ce qu'on interpréterait aujourd'hui comme un croissant de lune. Et sur le bas de l'objet, un arc de cercle avec des petits traits incisés, qui est interprété comme une barque, comme un bateau. Et le disque de bronze est parcellé de petits points dorés, interprétés comme des étoiles, et pour lesquels on observe notamment un rassemblement de 7 étoiles, qui serait donc la constellation des Pléiades, qu'on observe encore aujourd'hui dans le ciel. Et donc cet objet est interprété aujourd'hui comme la toute première carte céleste de l'humanité. On n'en connaît pas de plus ancienne actuellement. Et représenterait peut-être le ciel de l'Allemagne il y a quasiment 3000 ans. Donc c'est ce motif avec donc une barque qui transporterait les astres célestes, donc ce motif du voyage solaire. On le retrouve sur des objets dans l'Allier, sur des petites pendeloques qui représentent donc un cercle évidé avec trois rayons qui reposent sur une barque. Et à la proue et à la poupe de la barque, on a une représentation de têtes d'oiseaux, certainement des oiseaux marins.
Alors Pierre-Émile Sand, moi j'entends parler de barques solaires, d'oiseaux marins, de canards éventuellement. J'ai des petits échos qui se font immédiatement avec l'Égypte antique, avec voilà, le monde des morts, cette barque, ces canards ou d'autres types de palmipèdes. Alors on peut décrire cette pendeloque parce qu'elle est vraiment belle et elle est mise en regard de ce disque de Nebra qui est très impressionnant. Et puis voilà, quel pont vous faites en tant qu'archéologue avec ces deux mondes-là qui ne sont pas du tout les mêmes.
Alors ce que l'on voit, c'est effectivement un motif qui est celui d'un véhicule, ici une barque, un véhicule qui peut se déplacer sur l'eau. De part et d'autre, donc des têtes très schématisées d'oiseaux aquatiques qu'on interprète soit comme des canards, mais plus vraisemblablement des cygnes. Alors c'est YGNES, bien entendu. Et puis cette barque tirée par des cygnes, eh bien porte ici un motif en forme de roue, de char, qui est très vraisemblablement une symbolisation du char du soleil. Alors tous ces motifs, eh bien, on les connaît déjà depuis très longtemps, dès le début de l'âge du bronze, en Égypte et au Proche-Orient, selon une croyance qui veut que la Terre étant considérée comme le centre de l'univers, comme une sorte de disque baigné par un fleuve-océan, eh bien, cette Terre serait parcourue par une divinité qui joue un rôle très important en Égypte, qui est la divinité Ra ou Ré. Ré, c'est le disque du soleil qui, le jour, eh bien, peut être tracté par un char tiré par des chevaux. Et puis, dans son parcours diurne puis nocturne, eh bien, le soleil est censé atterrir à la fin de la journée à l'autre extrémité, à l'ouest de la Terre, là où il embarque sur le fleuve océan. Et c'est là qu'il est emporté par la fameuse barque solaire qui lui permet ensuite de revenir à l'aube, à son point de départ. Et donc il y a une correspondance qui est tellement précise entre cette iconographie de l'Égypte et puis cette iconographie de l'Europe de l'Ouest qu'on peut penser effectivement qu'on a eu des contacts, pas seulement économiques, mais également spirituels, culturels, à travers toute l'Europe et bien entendu au-delà.
Alors là, vous nous avez permis de faire un très beau tour de cet âge du bronze. On commence par notre ignorance sur l'âge du bronze et puis on finit par rentrer même dans l'intimité de cette spiritualité des personnes et des sociétés de l'âge du bronze. Emmanuel Audry Brunet aussi, il y a un aspect qu'il faut souligner pour conclure cette visite de l'exposition L'Odyssée du bronze à Moulins, c'est le fait que cette exposition aussi met en avant des objets qui ont été découverts il n'y a pas si longtemps que ça et que vous lancez finalement et vous accompagnez ce travail qui est réalisé par Pierre-Émile Sand et ses équipes à Janza et finalement vous créez déjà un écho muséal à ces découvertes.
Oui, on essaye en tout cas. C'est vrai que souvent les expositions de musées viennent conclure un parcours de recherche sur le terrain et présenter des conclusions au public. Là, même si le site est déjà fouillé, on pourrait dire depuis 2017, à l'aune de certains sites archéologiques, c'est tout jeune et tout petit. Et c'est vrai que cette exposition, on l'envisage plutôt comme une introduction finalement à ce site de Janza et à cette redécouverte de la période de l'âge du bronze. Et l'idée, c'est de donner rendez-vous ensuite au public que peut-être dans 10 ans, pour pouvoir cette fois présenter tous les résultats qu'auront pu apporter le site de Janza à cette période.
On donne rendez-vous au public dans 10 ans pour découvrir les nouvelles découvertes que vous réaliserez, Pierre-Émile Sand, à Janza. Merci beaucoup à tous les deux pour cette visite. Science Chrono, c'est fini pour aujourd'hui. Un grand merci à Béatrice Martini pour l'organisation de cette visite au musée Anne de Beaujeu. Merci à toute l'équipe de l'émission, Eve Etienne, Bruno Sansini, à la réalisation Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui Olivier Arnay, et merci à nos partenaires l'INRAP et l'INA. Vous pouvez réécouter cette émission comme toujours sur l'appli Radio France ou bien sur le site franceculture.fr. N'oubliez pas de régler vos montres à l'heure des sciences. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour un nouvel épisode de Science Chrono.